L'image d'Épinal du déluge, elle est vraiment gravée dans notre inconscient collectif. On a tous en tête ce gentil bateau en bois tout rond avec des girafes qui dépassent par le toit.
Oui, et la fameuse colombe avec son rameau d'olivier.
Exactement. C'est presque un conte pour enfants, en fait. Une histoire douce que tout le monde croit connaître par cœur. Mais aujourd'hui, pour cette nouvelle exploration en profondeur, notre mission, c'est vraiment de décortiquer une source qui fait voler cette image en éclats.
Complètement. Parce que quand on plonge dans les notes de cours universitaires du professeur Robert Van Hoy...
Des notes d'histoire de l'Ancien Testament, c'est ça?
C'est ça. Spécifiquement sur les chapitres 6 à 9 de la Genèse, eh bien, on découvre quelque chose de radicalement différent du conte pour enfants.
C'est un peu comme penser qu'on regarde un dessin animé inoffensif et tomber soudainement sur la version du réalisateur, le fameux directeur Scott.
Avec des scènes coupées très sombres, oui.
Des scènes qui impliquent de vieux rois tyranniques, des problèmes de traduction millénaire et même des questions sur l'ingénierie navale avec des bateaux en forme de cube géant. Je suis vraiment ravie d'aborder tout ça.
Je suis prêt aussi. Et en effet, les notes du professeur Van Hoy révèlent que derrière la version édulcorée, il y a un texte d'une précision et d'une gravité vraiment troublantes.
Ce n'est pas juste un mythe vaporeux, quoi.
Pas du tout. Le récit biblique s'ancre d'emblée dans une structure historique très rigide. Il a été conçu pour transmettre la réalité, l'effondrement total de la société de l'époque.
Et ça pose des questions viscérales sur la corruption, sur le pouvoir sans limite. Et pour aborder cette analyse, il faut d'abord poser les bases factuelles du texte, n'est-ce pas ?
Absolument. Avant d'aller vers les mythes ou les monstres, Van Hoy insiste sur la chronologie.
Et la précision des dates est chirurgicale. Ce n'est pas « il était une fois ». Le texte dit que ça commence la 600e année de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour.
Oui, une vraie tenue de registre.
Et la terre est déclarée sèche le 27e jour du 2e mois de l'année suivante. Donc le calcul est vite fait, 1 an et 10 jours.
Et cette précision temporelle, elle a une fonction littéraire et théologique majeure. Ça ancre l'événement dans une réalité concrète. D'ailleurs, Van Hoy souligne dans ses cours qu'il y a des débats parmi les historiens sur le calendrier utilisé.
Année solaire ou année lunaire?
Voilà. La majorité des cultures du Proche-Orient ancien utilisaient un calendrier lunaire. Une année lunaire fait environ 354 jours. Et si on ajoute ces fameux 10 jours d'écart du texte...
On arrive à 364 ou 365 jours.
Exactement. Ce qui nous amène très près d'une année solaire complète. Mais bon, le détail technique importe presque moins que l'ordre de grandeur.
Ce n'était pas juste une crue de printemps du Tigre.
C'est ça. Un an sous les eaux s'implique une dévastation écologique et humaine totale.
Un an à dériver au-dessus d'un monde englouti, c'est vertigineux. Mais si on comprend le temps que ça a pris, la question qui vient après, c'est le pourquoi. Pourquoi un formatage complet du système?
Les notes pointent vers Genèse 6, verset 5. La cause identifiée, c'est la méchanceté humaine.
L'analogie qui me vient à l'esprit, ce n'est pas un simple dysfonctionnement. C'est comme un virus informatique systémique qui aurait corrompu chaque secteur du disque dur de l'humanité.
C'est une excellente métaphore. Une simple suppression de quelques fichiers ne suffit plus.
Le système est irrécupérable. Il faut tout formater.
Et l'analyse de l'hébreu original par le professeur appuie parfaitement cette idée de corruption. Le texte construit une accumulation terrifiante de superlatifs.
Ah oui, on peut détailler ça, hein ?
Bien sûr. D'abord, l'intensité. La méchanceté était grande. Ensuite, l'intériorité. L'infection touche chaque imagination des pensées de son cœur.
Donc c'est au plus profond de l'être.
Voilà. Puis le texte ajoute l'inclusivité, avec le mot « toute », et l'exclusivité, en précisant que ses pensées se portaient uniquement vers le mal.
« Toute » et « uniquement », ça ne laisse aucune place au bien.
Et le coup de grâce, c'est la continuité. Le texte dit « tous les jours ».
Donc ça élimine complètement l'idée de simples erreurs ponctuelles. On parle d'un monde où la cruauté, c'est le mode de fonctionnement standard.
Le diagnostic biblique va même plus loin, au chapitre 8, en disant que l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. C'est congénital.
Ce n'est pas acquis par de mauvaises fréquentations.
Non, c'est la nature même de l'humanité de l'époque, laissée sans aucun frein, jusqu'au point de rupture.
Mais s'il y a un point de rupture, il doit bien y avoir un élément déclencheur précis. Et c'est là qu'on entre dans ce fameux Director's Cut, au chapitre 6.
L'événement troublant juste avant le déluge.
Le mariage entre les mystérieux fils de Dieu et les filles des hommes. C'est une expression qui a nourri les théories les plus folles pendant des millénaires.
Et les notes de Van Hoy prennent le temps de décortiquer 4 grandes approches historiques.
Commençons par la première, alors.
La première, souvent aimée par les chercheurs critiques, est mythologique. L'idée, c'est que d'anciens êtres divins, issus d'un panthéon polythéiste, ont été charmés par des humaines.
Pour faire des demi-dieux. On se croirait en plein mythe grec avec Zeus qui descend de l'Olympe, quoi.
C'est tout à fait ça. Mais c'est totalement incompatible avec la vision de l'Ancien Testament.
Qui est farouchement monothéiste.
Exact. Ça ne tolère pas les divinités mineures capricieuses. La deuxième approche, très populaire dans l'Église primitive, c'est la théorie angélique.
Des anges déchus qui franchissent une barrière cosmique pour s'unir à des femmes? C'est très tenace comme théorie.
Extrêmement tenace. On la retrouve liée à des textes apocryphes comme Énoch ou l'Épître de Jude au chapitre 6.
Il y a un côté invasion extraterrestre aujourd'hui quand on lit ça. Mais les anges n'ont pas de corps physique, non?
Justement. Et va nous réussir William Henry Green, un immense érudit du 19e siècle, qui met en lumière une faille énorme dans cette théorie.
Laquelle?
Le décret divin qui punit ce crime vise l'humanité. Les jours de l'homme sont limités à 120 ans. Si le crime est commis par des anges envahisseurs, pourquoi punir les humains?
Ah, d'un point de vue de la justice, c'est absurde.
Et en plus, Jésus affirme dans les évangiles que les anges ne se marient pas. L'idée d'hybride est étrangère à cette pensée hébraïque.
Donc, par élimination logique, pas de demi-dieux et pas d'anges. Il ne reste que des humains. Ce qui nous amène à la troisième théorie.
Celle de la lignée de Seth, défendue notamment par Gerdaeus Voss.
Un drame familial, si je comprends bien. Une sorte de Roméo et Juliette entre tribus rivales.
C'est l'idée. La lignée de Caïn, impie, violente et technologique. Et la lignée de Seth, pieuse. Les fils de Dieu seraient les croyants de Seth et les filles des hommes, les femmes de Caïn.
Le péché, ce serait le compromis spirituel? Narrativement, ça fait le lien avec les chapitres précédents. Mais les sources parlent d'un piège linguistique. Qu'est-ce qui coince en hébreu, en fait?
C'est le mot « Adam » qui veut dire « l'humanité ». Au verset 1, il est écrit que « quand l'humanité, Adam, a commencé à se multiplier et que des filles leur sont nées ».
Donc là, ça parle de toute l'humanité.
Oui. Mais pour que la théorie de Vostienne tienne au verset 2, il faudrait lire que les fils de Dieu virent que les filles de Adam, donc spécifiquement celles de Caïn, étaient belles.
On utiliserait le même mot à une phrase d'intervalle pour dire tout le monde d'abord, puis juste une petite tribu ensuite.
Grammaticalement, c'est intenable, oui. Ce serait tordre le texte.
Ce qui nous ouvre enfin la voie vers la quatrième théorie, celle privilégiée par les notes et qui rend l'histoire profondément politique.
La théorie de la royauté divine, soutenue par Van Roy et des spécialistes comme Klein et Burney.
Dans l'Antiquité, les rois se faisaient appeler « fils des dieux ».
En Égypte, en Mésopotamie. C'était un titre dynastique pour légitimer un pouvoir absolu et intouchable.
Donc l'analogie, ce n'est plus Roméo et Juliette, c'est carrément un cartel mafieux antique, des rois despotiques, des tyrans, et leur crime, ce n'est pas juste un mauvais mariage.
Non, c'est la traduction de la préposition hébraïque « mine » qui change la donne, souvent traduite par « parmi les femmes », et là un sens explicatif dans ce contexte.
Ce qui veut dire
qu'il prenait autant de femmes qu'il le voulait. C'est de la polygamie sauvage institutionnalisée par des dictateurs qui s'accaparent tout par la force.
Et les enfants de ces unions, les fameux Néphilim et Jiborim, ce ne sont donc pas des géants magiques?
Pas du tout. Néphilim vient probablement de tomber ou faire tomber. Ce sont des abatteurs. Et les Jiborim, les hommes forts.
L'aristocratie militaire, en somme.
Des seigneurs de la guerre. Ils constituaient la garde rapprochée de ces tyrans, maintenant la mafia au pouvoir par l'intimidation et le meurtre.
Ça donne tellement de sens au verset suivant qui dit que la terre était pleine de violence. On comprend que ce n'est pas une simple dispute de voisinage.
C'est un effondrement sociétal.
L'humanité est sous le joug d'une dictature globale irrécupérable. Le déluge devient la seule réponse possible pour démanteler cette oppression.
Exactement. Mais ça soulève un défi historique énorme. Si ces despotes ont existé, quand est-ce que ça s'est produit?
On a les généalogies du chapitre 11, de Noé à Abraham. L'envie naturelle, c'est de sortir sa calculatrice.
Sauf que si on additionne ces âges strictement, on arrive à seulement 292 ans.
Ce qui est beaucoup trop court pour englober l'Égypte, la Mésopotamie, toutes les civilisations.
C'est une impasse historique totale.
Donc, comment on lit ça? L'analogie pour notre public, ce serait comme un highlight reel, une vidéo des meilleurs moments d'un match.
Très bonne image.
On ne montre pas chaque minute, on saute des séquences pour ne garder que les moments décisifs de l'arbre généalogique.
Ces lacunes, ces fameux gaps, sont volontaires et typiques du Proche-Orient ancien. Le but, c'est la légitimité dynastique, pas un calendrier astronomique.
L'histoire reste vraie, même si des chapitres sont résumés.
D'ailleurs, l'impossibilité de dater précisément ne remet pas en cause l'événement. Le Nouveau Testament traite ça comme un fait historique absolu.
Ah oui, par exemple...
Matthieu 24 compare ces jours au retour du Fils de l'homme. Et on retrouve ça dans Hébreux 11 ou chez Pierre.
Mais si c'est historique, si ça a rasé le monde connu, les autres civilisations auraient dû s'en souvenir, non?
Et c'est là qu'on entre dans le face-à-face épique entre la Genèse et Babylone. L'archéologie a retrouvé des tablettes mésopotamiennes relatant des déluges.
Ce qui a dû créer une onde de choc académique.
Au XIXe siècle, oui. Des érudits comme Finnegan ont suggéré que la Bible avait juste copié et purifié l'épopée babylonienne.
Les similitudes sont troublantes, c'est vrai.
Gilgamesh, Utnapishtim, Atrahasis, on retrouve un grand déluge, quelques survivants, une révélation divine.
Un ordre de construire un bateau, des lâchers d'oiseaux depuis le pont, et même l'atterrissage sur une montagne et le sacrifice. On a envie de crier au plagiat. Hein.
C'est la réaction instinctive. Mais c'est ignorer la mémoire culturelle commune. Enduire un bateau de poids ou lâcher des oiseaux, c'était des techniques de survie navale standard.
Donc, tout le monde se souvient des mêmes faits.
La différence décisive, analysée par Van Hoy, elle est dans l'architecture des navires. L'hydrodynamique sépare le mythe de la réalité.
J'adore cette partie. Que disent les textes babyloniens sur la forme du bateau?
Dans Gilgamesh, le bateau d'Utnapishtim est un cube parfait. 120 coudées de côté, 6 ponts, 9 sections. Et chez Bérose, c'est encore pire, un navire de 3000 pieds sur 1200.
Un cube géant avec 6 étages. Même sans diplôme d'ingénieur, on devine que ça ne va pas bien se passer dans une tempête.
C'est une aberration physique.
Et la Genèse propose quoi?
Des dimensions très spécifiques. 300 coudées de long, 50 de large, 30 de haut.
En mètres, ça donne quoi à peu près?
Environ 137 mètres de long, 23 de large et 14 de haut. C'est 43 000 tonnes de déplacement. Mais le plus fou, c'est le ratio.
La longueur est 6 fois la largeur.
Exactement. Ce ratio de 6 pour 1, c'est rigoureusement celui de l'ingénierie navale moderne pour les cargos transocéaniques.
Attendez, vraiment, c'est fascinant!
Parce qu'un cube flottant, avec le roulis et le tangage, ça chavire immédiatement. L'auteur babylonien a juste utilisé des nombres sacrés sans se soucier de la physique.
C'est la machine à donner le mal de mer ultime, le cube.
L'arche biblique, elle, n'a ni voile ni gouvernail, mais sa forme garantit une stabilité hydrodynamique maximale face aux vagues extrêmes.
C'est l'analogie du Titanic. Si 3 journaux rapportent le naufrage, la base est la même. Mais si un journal décrit un Titanic en forme de pyramide en or flottante et l'autre décrit un paquebot en acier avec compartiment étanche...
On sait immédiatement lequel a gardé le témoignage oculaire intact...
Et lequel l'a transformé en légende. L'absurdité du cube babylonien renforce la crédibilité historique des proportions de la Genèse. Le texte biblique n'a pas copié le mythe, il a conservé la mémoire physique, la vraie.
C'est toute la richesse de l'exégèse de Van Hoy. On voit que ce texte, souvent pris pour une fable naïve, est un document d'une complexité incroyable.
Le parcours qu'on vient de faire est vertigineux, honnêtement.
Et il croise la chronologie, la politique, la linguistique et même la physique navale.
Parti d'une image d'Épinal, on a exploré un mal systémique, démasqué des rois polygames tyranniques et leurs seigneurs de la guerre, pour finir sur la stabilité d'un cargo antique.
C'est une plongée impressionnante.
Et pour clore cette analyse, on peut se poser une dernière question, une pensée qui prolonge les sources.
Oui. Car ce récit de la royauté divine est un avertissement intemporel.
Si le déluge est la réponse inéluctable à un système de pouvoir absolu et violent, que se passe-t-il aujourd'hui quand nos propres sociétés laissent des entités technologiques ou politiques s'installer sans aucun contre-pouvoir moral?
Les mêmes conditions, au fond.
Ne sommes-nous pas en train de construire nos propres néphilim modernes, des entités vouées à s'effondrer sous le poids de leur propre violence systémique? C'est une réflexion que chacun pourra creuser de son côté, bien au-delà de la simple histoire d'un bateau et de ses animaux.
Ça donne matière à réfléchir, c'est sûr.
C'était un immense plaisir de partager toutes ces découvertes. À très bientôt pour une prochaine exploration en profondeur.